Celui qui n'oublie jamais, c'est Dieu. Heureusement, n'est-ce pas? Dieu choisit de ne pas se souvenir, mais Dieu ne n'oublie jamais. Mais nous nous oublions, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Parce que sans cette parole, s'il fallait tout mémoriser, tout garder dans son esprit, bah, imaginez-vous, on serait mal. Il y a des chrétiens dans le monde qui sont obligés de mémoriser la parole parce qu'ils ne l'ont pas entre les mains. Pensez à cela et pensez au privilège que nous avons d'avoir la Bible entre nos mains. Et je vous invite à l'apprendre ce matin et de l'ouvrir dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 3. L'évangile de Jean, chapitre 3. Nous allons voir cette histoire de Nicodème. Là, vous allez dire, mais c'était même pas la peine que je vienne ce matin. Je connais cette histoire-là. Alors, j'espère que ce n'est pas votre réflexion. D'accord ? L'évangile de Jean, chapitre 3. L'histoire de l'entretien de Nicodème avec Jésus. Nous allons voir un passage un peu plus long ce matin que nous avons l'habitude de voir. Ce sera les 21 premiers versets de ce chapitre. Suivez avec moi. J'espère que vous avez votre Bible, soit version papier ou bien électronique si vous l'avez. En commençant avec le verset 1 jusqu'au verset 21. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. » Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous te louons que tu nous as révélé dans ta parole qui tu es, ce que tu attends de nous, que tu nous fortifies par cette parole, que tu diriges notre réflexion, qu'il soit évident que c'est toi qui es à l'œuvre et que ainsi tu sois exalté et glorifié. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Ce passage si bien connu, où on a cet homme qui vient de nuit voir Jésus. On se dit, mais je connais. Alors, on peut peut-être passer à côté de certains détails qui sont très importants, parce que Jésus, dans ce simple entretien avec Nicodème, va manifester pour la première fois, du moins écrite ici dans l'évangile de Jean, plusieurs raisons pour lesquelles lui, il est venu. Jusque-là, Jean nous montre Jésus qui est là. Premier chapitre, bon, on sait qu'il vient de Dieu, il va accomplir un miracle au chapitre 2, il va accomplir un certain nombre de choses, il va parler, mais dans ce chapitre 3, nous avons le fondement, une des premières exposées des raisons pour lesquelles Jésus est venu. Et nous allons dire, mais Jésus, bon, il est venu, on sait pourquoi. Il est venu sauver. Ok, oui, très bien, ça, mais si on va un peu plus loin, Jésus va nous montrer un ensemble de détails dans ce verset. Et je suis convaincu que assez souvent, nous ne sommes pas assez étonnés avec ce passage que nous devons être. Et si nous retournons au verset 1, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un des chefs des Juifs. Jean relève ce détail, surtout suite à ce qui s'est passé au chapitre 2. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, qu'est-ce que nous avons vu? Jésus va nettoyer le temple. Il va faire un fouet et il va chasser des personnes du parvis du temple. Il va renverser des tables. Il va un peu se mettre en colère. Il va montrer que ce n'était pas du tout le lieu pour faire du commerce, mais c'était le lieu pour adorer Dieu. Et parce que ce commerce apportait au temple, remplissait un peu les coffres du temple, imaginez-vous que les chefs religieux, les pharisiens, n'étaient pas trop contents que cet homme de Nazareth, peu instruit à leurs yeux, qui sort un peu de nulle part, qui vient et qui fait tout cela. On peut comprendre que les pharisiens, ça ne les plaisait pas. Mais maintenant, un des leurs, donc Nicodème, est intrigué. Il se dit, mais cet homme, qu'est-ce qu'il fait là? Apparemment, il ne veut pas ouvertement aller voir Jésus, mais de nuit, il va voir Jésus. Et au verset 2, cet homme apparemment est rongé un peu par une question. Cette intrigue en ce qui concerne Jésus, il dit, Rabbi, bon, maître, celui qui enseigne, une marque de respect. Il reconnaissait quelque chose par rapport à Jésus. Nous savons que tu es un docteur, celui qui enseigne. Alors, ce n'est pas un médecin, bien sûr, mais c'est celui qui enseigne. Un enseignant, quelqu'un qui vient de la part de Dieu. On se dit, c'est bien, Nicodème. Tu es intelligent, tu as constaté certaines choses. Comment, Nicodème, tu le sais? Il va l'expliquer. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors, Nicodème est sur la bonne piste. Et malheureusement, beaucoup autour de nous sont sur la bonne piste. Les gens inconvertis, parce qu'à ce moment-là, Nicodème est encore inconverti. Et beaucoup de gens autour de nous sont sur la bonne piste. C'est-à-dire, ils ont des notions de Dieu. Ils savent peut-être qu'un Dieu existe. Vont le reconnaître même pour certains comme celui qui a créé ou celui qui a démarré peut-être le processus de l'évolution pour eux. Alors, qu'il soit clair, c'est Dieu qui a créé, Dieu ne s'est pas servi de l'évolution. Mais bon, certains croient que oui. Et Nicodème, comme beaucoup autour de nous aujourd'hui, assez religieux, un homme de bien, ne faisait pas le mal. Ne se considérait pas comme quelqu'un qui avait vraiment besoin de Dieu. Et pourtant, il voit cet homme, Jésus, et dit, celui-là, il est différent. Et il reconnaît que Dieu est avec lui. Nicodème reconnaît que Dieu est avec Jésus. Et la première pensée pour nous ce matin, c'est, est-ce que c'est ce que les autres constatent de nous? Bien sûr, nous n'accomplissons pas des miracles. Dieu ne nous appelle pas à accomplir les miracles tels que Jésus les accomplissait. Mais est-il évident pour ceux qui nous entourent que Dieu est avec nous. C'était évident pour Jésus. Et on va dire, oui, mais Jésus, il est le fils de l'homme, il est Dieu, il est le fils de Dieu. On ne peut pas comparer. Et pourtant, comme je le souligne depuis un certain temps, Jésus habite en nous si nous sommes enfants de Dieu. Et si Jésus habite en nous, n'est-il pas capable de nous rendre capables d'accomplir les choses pour lui? Ne devrait-il pas être aussi évident dans notre vie que Dieu est à l'œuvre que ça l'était pour Jésus? Je vous soumets que oui. Il devrait être aussi évident pour les personnes autour de nous que Dieu est à l'œuvre dans notre vie que ça l'était pour les gens à l'époque de Jésus. Malheureusement, nous nous conformons trop à ce monde. Nous faisons des choix. Nous prenons des décisions sur notre logique humaine au lieu de nous appuyer sur Jésus qui habite en nous. De dire, qu'est-ce que Jésus ferait? Qu'est-ce que Dieu, par Jésus-Christ, veut que je fasse dans telle ou telle situation? Même si cela me coûte, même si les autres ne comprennent pas, et on va voir dans ce passage beaucoup d'incompréhension, Jésus est venu nous donner un exemple. Et Jésus est venu nous apporter la capacité de faire des choix qui vont nous distinguer de ceux qui nous entourent. Mais lorsque nous, et je me mets dans cette catégorie, lorsque nous examinons notre vie, y a-t-il tant de différences? Est-ce que les gens peuvent nous identifier comme des personnes que Dieu utilise et dans lesquelles Dieu travaille? Une question pour nous à poser. Il était évident pour Jésus. Et ce même Jésus, il est en nous. Alors, est-ce qu'il y a des Nicodèmes autour de nous qui disent, « Ah, je vois quelque chose là. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais je le vois et je veux en savoir plus. » Alors Nicodème, il va vers Jésus, il dit, je vois quelque chose de différent, Dieu est avec toi, c'est évident. Et c'est la réponse de Jésus, parce qu'on la connaît, on s'y attend. Mais si on ne la connaissait pas, essayez de voir ce passage comme pour la première fois. Parce que Nicodème dit, Jésus, tu viens de Dieu, c'est évident, Dieu est avec toi, à cause de ce que tu fais. Et Jésus qui lui répond, pour accéder au royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Quoi? Non, mais ce n'est pas ce que j'ai posé comme question. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Savoir que quelqu'un vient de Dieu, royaume de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne vois pas trop le lien. Et pourtant, Jésus savait que le besoin réel de Nicodème n'était pas une plus grande connaissance. Jésus savait que le besoin de Nicodème n'était pas tout simplement de savoir peut-être un peu plus sur Dieu ou autre. Non, ce dont Nicodème avait besoin, c'était une transformation totale. La naissance, c'est quand même quelque chose de radical. Enfin, il paraît, d'après ce qu'on me dit. Nous sommes tous passés par là, sans exception. Si vous êtes là ce matin, vous êtes passés par la naissance physique. Okay. Et ce que Jésus explique ici, c'est qu'il faut une transformation. On passe d'un état, c'est-à-dire on est dans le ventre de sa maman, et puis à un moment donné, on ne l'est plus, on est à l'extérieur. On est dans ce monde cruel, dur, qui manque d'amour, qui manque de patience, qui manque de justice, qui manque plein de choses, qui est rempli de péchés. Mais on passe de ce monde où on est bien entouré, on est bien, mais bien au chaud, comme on dit. Et puis on passe dans ce monde où tout va mal, enfin pratiquement. Et tout aussi radical que cette transformation-là, Jésus dit, il faut une autre transformation. Et malheureusement, c'est ce qui manque aujourd'hui dans l'annonce de la vie avec Dieu. Puisque Nicodème, il ne se rendait pas compte forcément, mais il était à la recherche de la relation avec Dieu. Et Jésus a compris que finalement, Nicodème voulait savoir comment accéder à Dieu. Alors, regardez verset 3. À la fin de verset 3, il ne peut voir le royaume de Dieu. À la fin de verset 5, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème n'avait pas parlé du royaume de Dieu. Nicodème n'avait pas parlé d'accéder à Dieu. Et pourtant, Jésus savait que c'était son désir et savait également que c'était son besoin, accéder à Dieu. Et Jésus va dire, ça passe par cette transformation. Et nous le savons. Je suis convaincu que chacun ici sait que pour accéder à Dieu, il faut la nouvelle naissance. Il faut accepter Christ comme son sauveur. Je suis convaincu que personne ici ce matin ne remettrait cela en doute. Mais lorsqu'on examine notre annonce de l'Évangile, qu'est-ce que nous disons à ceux qui nous entourent? Si quelqu'un devait venir vers nous et dire, on serait déjà choqués, mais si quelqu'un devait venir nous dire, mais comment est-ce que je peux accéder à Dieu? Quelle serait notre réponse? Améliorez votre vie? Faites une prière? Croyez ceci ou cela? Acceptez Jésus dans votre cœur? D'ailleurs, une phrase qui n'est jamais trouvée dans la Bible. Ou est-ce que nous parlons d'une transformation radicale, une métamorphose, c'est le terme de la Bible, qui pour accéder à Dieu, qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça que nous devons annoncer. Et dans le christianisme un peu plus large, malheureusement, ce message, il est mal passé. Il n'est pas aussi explicite qu'il devrait être. Et nous, si nous sommes sauvés, nous devons annoncer clairement que ce que Dieu attend, ce n'est pas juste de petites améliorations, un petit changement, faire de son mieux et espérer pour le mieux. Aide-toi, le ciel t'aidera. Totalement anti-biblique. Non, c'est une transformation radicale, cette nouvelle naissance. Alors que nous annonçons ce message, il ne faut pas être étonné qu'il y ait de l'incompréhension. On se met à la place de Nicodème. Enfin, moi, je me mets à sa place. Je parle de Dieu, je parle de cet homme, je parle à cet homme qui manifestement vient de Dieu, et puis il me parle de nouvelle naissance. Quoi? Non, mais on comprend rien, là. Et on compatit un peu avec Nicodème. Il dit, verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? En sous-entendant, c'est impossible. Ce qui est vrai. C'est impossible. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et non. Non, non. La naissance physique, ça se passe une seule fois, pas deux. Et nous voyons par cela que Nicodème, malheureusement, il est centré sur les choses terrestres. Et nous ne devons pas être découragés, nous ne devons pas arrêter lorsque face à nous, il y a des gens inconvertis qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Vous savez, peut-être vous, comme moi, on est frustrés par moments, les choses de la Bible nous semblent tellement évidentes. Nous les entendons depuis un certain temps, Dieu par son esprit nous éclaire, et on a une compréhension, et gloire à Dieu pour cela. Et les gens autour de nous, ils ne comprennent pas. Ils sont ignorants. Et même quand on essaie de leur expliquer, ils disent, mais ça n'a aucun sens. Et parfois, nous sommes frustrés. Enfin, moi, je suis frustré. Mais c'est écrit là, c'est simple. Pourtant, ce n'est pas difficile à comprendre. Oui, mais ces personnes n'ont pas l'intelligence spirituelle pour comprendre. Et Jésus n'est pas devenu frustré avec Nicodème. Bon, il va lui dire au verset 10, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Donc, Nicodème aurait dû savoir, mais Jésus ne devient pas frustré en jetant l'éponge, en disant « mais c'est pas la peine, t'aurais dû comprendre, alors tant pis pour toi ». Non. Jésus, avec beaucoup d'amour, prend Nicodème là où il est, avec la compréhension qu'il a, et l'emmène plus loin. Petit à petit, dévoile ces choses spirituelles. Et Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, va aller un peu plus loin. On n'aura pas le temps de chercher ce verset ce matin, mais Paul va dire que Satan est activement en train d'aveugler les yeux spirituels des gens qui sont inconvertis pour qu'ils ne comprennent pas les réalités concernant Christ. Et nous ne devons pas oublier ces deux grandes vérités. La première, c'est que les gens inconvertis n'ont pas l'intelligence spirituelle que nous avons, si nous sommes sauvés. Et les gens inconvertis sont sous la puissance de Satan qui les empêche activement à comprendre les vérités concernant Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons avoir beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et beaucoup de patience pour les gens inconvertis autour de nous. Lorsque nous voyons comment les gens autour de nous agissent mal, cela est très difficile, n'est-ce pas? On a parfois envie de donner des claques. On a envie parfois de dénoncer, de voilà, agir nous-mêmes. Mais non. Beaucoup de patience, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Parce que c'est ce que Jésus manifeste dans ces versets. Face à l'incompréhension, face même au rejet que nous ressentons de la part des inconvertis, ne jetons pas l'éponge, ne baissons pas les bras, mais agissons avec amour, avec patience et avec compassion. Jésus va quand même prendre le temps d'expliquer certaines choses spirituelles, ce qui nous montre que parler des choses spirituelles avec des inconvertis n'est pas peine perdue, n'est pas inutile. Il faut leur annoncer la vérité. Verset 5, on y revient. Jésus va dire à Nicodème, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, il annonce ces vérités spirituelles, cette nouvelle naissance qui est accomplie uniquement par Dieu. Et au verset 8, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit. On peut ajouter même, on voit des feuilles bouger, surtout en ce moment. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, lorsque nous agissons par l'esprit, lorsque Dieu nous aide, lorsque nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit, les inconvertis ne comprennent pas. Et ne soyez pas étonnés que les personnes inconverties autour de nous ne nous comprennent pas. La chose la plus importante dans ce monde n'est pas d'être compris par ceux qui nous entourent. Si les autres ne comprennent pas, c'est dommage pour eux. Mais ça ne doit pas nous faire changer notre façon de vivre devant Dieu. Si mes choix se basent sur la Bible, si mes choix sont dirigés par le Saint-Esprit, que les autres comprennent ou pas, peu importe. Jésus dit, se laisser diriger par l'Esprit est le plus important. Tout le monde ne comprendra pas, mais il faut le faire, se laisser diriger par l'Esprit. Et puis, dans les versets qui suivent, Nicodème va continuer de manifester son incompréhension, son attachement aux choses sur la terre. Et Jésus va dire, sans un changement de perspective, sans un changement total, on ne peut pas comprendre. Et dans ces versets, Jésus montre qu'il aurait voulu enseigner plus. Il dit au verset 11, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes. En sous-entendant, c'est pas possible. Si on ne croit pas pour les choses terrestres, on ne croira pas et on ne comprendra pas pour les choses célestes. Et c'est là où nous, si nous sommes sauvés, nous pouvons remercier Dieu que nous avons la capacité de comprendre et de croire ces choses célestes. Et dans ces versets 11 et 12, Jean, par Jésus-Christ, laisse entrevoir un aspect de la Trinité. Nous parlons ce que nous avons vu. Ben, Jésus, il est tout seul. Et pourtant, il parle de lui-même en tant que Dieu. Et il va dire au verset 13, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Bien sûr, Jésus, il est Dieu. Et il fallait que ceci soit souligné. Nicodème, il n'avait pas tout à fait compris. Pour Nicodème, Jésus était peut-être un grand enseignant, un grand prophète, quelqu'un qui vient de Dieu, mais un simple homme. Et Jésus veut rétablir la vérité. « Ah non, je suis homme, dit Jésus, mais je suis également Dieu. » Et si jamais vous êtes confronté à un enseignement qui cherche à dire que Jésus n'est pas Dieu, ben, refusez cet enseignement. Si jamais vous êtes confronté à un enseignement qui dit que Jésus n'est pas homme, refusez cet enseignement, parce qu'il est les deux, à la fois. Ne me demandez pas d'expliquer tout de cela, je ne peux pas. Mais la Bible l'annonce, alors moi je le crois parce que c'est vrai. Et Jésus dit, je suis venu pour expliquer, pour révéler, et c'est à travers lui que ces choses sont comprises. Et je me mets de nouveau à la place de Nicodème, qui avait une connaissance de l'Ancien Testament. Jésus l'appelle le docteur, pas juste un, mais le docteur. C'était quelqu'un de très important, qui apparemment a fait beaucoup d'études, qui avait beaucoup de connaissances, qui avait mémorisé probablement une grande partie de l'Ancien Testament par cœur. Imaginez-vous cela? Et Jésus dit, oui, il y a des personnes qui sont montées au ciel, mais personne n'en est descendu. C'est moi, et c'est moi qui révèle. Et puis, parce que Jésus sait que Nicodème, il a cette connaissance de l'Ancien Testament, au verset 14, il va faire référence à un grand événement dans la vie d'Israël, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Alors, cet événement avec des serpents venimeux qui mordaient et les gens mouraient à cause du péché du peuple, c'était un jugement de la part de Dieu. Et Moïse fabrique ce serpent d'airain qu'il met sur un poteau qui est élevé. Quand les gens regardent ce serpent d'airain, ben là, ils sont guéris. Gloire à Dieu. Amen. Et là, ce jugement s'arrête. Et Jésus fait référence à cet événement historique dans la vie d'Israël. Et cela montre que faire référence à ce que Dieu a fait dans le passé peut être utile lorsque nous parlons avec des gens pour leur donner un point de référence, pour leur dire, bon, vous comprenez ceci, d'accord? Maintenant, je veux vous emmener plus loin. Parce que Jésus dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même. Donc, faites le lien, c'est comme ça que Jésus s'exprime. Vous savez ceci, mais maintenant, bah, allons plus loin. Allons plus loin. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et nous, avec le recul, nous savons qu'il parle de la croix ici. Nicodème ne comprenait pas la croix. Jean, à ce moment, au moment où il entend parler de ces choses, ne pensait pas à la croix, forcément. Par la suite, quand il va écrire, oui, mais sur le moment, quand il entend ceci, ne pense pas forcément à la croix. Mais Jésus sera élevé. Et c'est là où nous voyons que Jésus n'est pas simplement venu pour enseigner. Jésus n'est pas simplement venu pour donner une instruction, pour remplir la tête, pour même donner une intelligence spirituelle, pour éclairer sur les vérités spirituelles. Non, Jésus est venu pour nous donner un exemple. Il est venu pour agir. Il n'est pas simplement venu pour parler, mais il est venu pour agir. Et pour nous, il faut que ce soit le même. Nous sommes appelés à parler. Oui. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher, pour annoncer? Mais en même temps, nous sommes appelés à agir. Si on reste uniquement avec les paroles, ce ne sera pas suffisant. Il faut que nous agissions également. Donc Jésus est venu pour instruire, pour éclairer en ce qui concerne les choses spirituelles, mais il est venu pour agir également. Et puis à partir de verset 15, regardez, il y a ce petit mot « afin que ». C'est un petit mot de trois lettres en grec qui montre le but de quelque chose. Et il va revenir ici au verset, il va être ici au verset 15 et il sera dans le verset 16 également. Cette idée de la finalité d'une chose, afin que quiconque ait quelque connaissance, accepte quelques vérités, soit d'accord avec quelques vérités. Non. Vous le savez, afin que quiconque croit en lui, cette foi, cette confiance. Et nous voyons dans le verset 16, mais afin que quiconque croit. Et voilà pourquoi Jésus est venu, pour parler, pour agir, mais aussi pour être l'objet de notre foi. Jésus est venu, il a vécu, il est mort sur la croix pour qu'on croie en lui. Et lorsque nous croyons en lui, et qu'est-ce que j'aime bien ceci, verset 15, quand on croit, on a la vie éternelle. C'est combien de temps éternel? À jamais! Est-ce que ça s'arrête? Quelque chose qui est éternel, est-ce que ça peut s'arrêter? Non. Et ce mot, il va revenir à plusieurs reprises dans ce passage. La vie éternelle, verset 15, fin de verset 16. La vie éternelle. Et lorsque nous comprenons que Jésus est venu apporter quelque chose d'éternel, de permanent, ce n'est pas temporaire. Voilà pourquoi il est tellement triste d'entendre parler de groupes qui enseignent qu'on peut perdre le salut. Ne vous laissez jamais déstabiliser par cela. Notre salut ne dépend pas de nous. Non, ça dépend de Dieu. C'est lui qui sauve. Et parce que c'est lui qui donne la vie éternelle, comme nous allons le voir dans Jean chapitre 10, Jésus va dire, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Pouvons-nous perdre notre salut? Non. Nous ne le pouvons pas. Et Jésus dit, quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, possède et continue de posséder. Ce n'est pas juste qu'on l'a à un moment donné, mais on continue de posséder à jamais cette vie éternelle. Puis ce verset 16, que je suis certain la plupart d'entre nous, sinon tous, pourraient citer, il est au-dessus de la porte de la salle. Dieu a tant aimé le monde. Cet amour dont nous avons parlé en première partie ce matin, au début du culte, cet amour, l'amour de Dieu, il nous a tant aimés individuellement qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Jésus est-il venu? Pour sauver la terre, la planète? Non. Cette planète, elle sera détruite un jour. C'est Dieu qui le fera, non pas les hommes. Juste pour qu'on soit clair là-dessus. Jésus est venu apporter le salut spirituel éternel. Et si nous annonçons un autre message, si nous laissons les gens croire que Jésus est venu faire autre chose, nous passons à côté de la raison principale pour laquelle il est venu. Et voilà pourquoi notre vie doit être différente. Est-ce que notre vie rayonne de cette vérité. Est-ce que vous vivez la réalité de la vie éternelle que vous possédez déjà parce que vous êtes sauvé, si toutefois vous l'êtes? Et ceci s'applique à tous les moments de la vie. Tout comme on ne peut pas perdre le salut, il est éternel. Bah, ce salut éternel agit dans chaque domaine de notre vie. Ce qui fait que dans mes choix de tous les jours, le choix de mes vêtements, comment je vais m'habiller, doit être dirigé par le fait que je suis sauvé par la grâce de Dieu pour toujours. Ce que je choisis de manger doit être dirigé par le fait que je suis sauvé pour toujours. Les endroits dans lesquels je vais, ou les endroits dans lesquels je ne vais pas, doivent être dirigés par cette idée que Jésus est venu apporter la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle agit dans chaque domaine de ma vie. Et si nous sommes ici ce matin, et si nous devons être présents à chaque réunion de l'Église, c'est pas parce que le pasteur le dit. Moi, je peux raconter n'importe quoi, vous savez. Je ne devrais pas, et par la grâce de Dieu, je ne le fais pas. Mais ce n'est pas parce que moi je dis quelque chose qu'il faut le faire. Forcément. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien d'autre à faire qu'on se réunit le dimanche matin. On a peut-être d'autres choses qu'on pourrait faire. On se réunit le dimanche matin, régulièrement, et on devrait être présent, sauf empêchement majeur, parce que nous avons la vie éternelle qui nous a été accordée par Jésus-Christ. Et c'est lui qui veut que ses enfants se réunissent. Et si nous choisissons délibérément de ne pas être présents, que ce soit le dimanche matin, le mardi soir ou à d'autres réunions, qu'est-ce que cela dit de notre pensée sur Dieu et notre optique, notre perspective de Jésus-Christ? Je vous soumets que ça veut dire qu'on ne pense pas beaucoup de Jésus. Si nous choisissons délibérément de délaisser les rassemblements de son Église, si nous choisissons délibérément de ne pas témoigner, et moi je l'ai fait, je vous ai déjà partagé des occasions où, à ma honte, je n'ai pas parlé de Jésus-Christ à quelqu'un, alors que j'avais l'occasion. Cela montre que nous minimisons cette vie éternelle que nous avons. Et pourtant, Jésus est venu nous l'apporter. Et il est venu mourir pour nous l'apporter. Ça lui a tout coûté. Et nous, on choisirait délibérément de faire autre chose que ce que lui nous demande. Honte à nous. Mais quelqu'un va dire, mais Robert, le verset 18, Jésus n'est pas venu juger. Là, si je me sens coupable, si je me sens jugé, Jésus n'est pas venu juger, il est venu apporter la liberté. Alors, moi, je peux faire ce que je veux parce que je suis libre en Christ. Pas tout à fait, non. Non, nous sommes libres en Jésus-Christ, oui, mais libres de faire ce que Dieu veut. Nous sommes libres, nous avons la possibilité maintenant d'obéir alors que dans le passé on ne l'avait pas. Verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé. Ah, moi je crois en Jésus-Christ, je suis sauvé, alors je ne suis pas jugé, personne ne peut me juger. C'est faux, Dieu nous juge. Même en tant que ses enfants, Dieu nous juge. Vous qui êtes parents, vous savez, vous punissez, vous condamnez vos enfants quand ils agissent mal. Ben, Dieu, c'est pareil. Sauf que lui, il le fait parfaitement. Les parents humains, parfois, ils se trompent. Mais Dieu, jamais. Dieu nous juge. Ici, le jugement dont il est parlé, c'est le jugement éternel. Puisque nous sommes dans un contexte de vie éternelle, Jésus ici parle de jugement éternel. Mais le jugement, lorsque nous agissons mal, il est bien réel, même pour les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas choisir de délibérément désobéir ou laisser de côté ce que Dieu veut de nous et penser que Dieu est indifférent à ça. Non. gloire à Dieu, il n'y a plus aucune condamnation éternelle, encore une fois, pour les enfants de Dieu. Nous ne subirons pas la condamnation éternelle, mais croyez-moi, comme un bon Père céleste, si nous désobéissons à Dieu, Dieu nous jugera. Il pardonne, il restaure, gloire à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous laver de toute iniquité. Ne croyez jamais que vous avez fait un péché qui est trop grave pour être pardonné par Dieu. Ça, c'est faux aussi. Il n'y a pas de péché trop grave pour que Dieu ne puisse le pardonner. Nous ne sommes pas sous la condamnation, le jugement éternel. Et pourtant, aujourd'hui, Dieu juge ses enfants s'ils désobéissent, s'ils persistent, s'ils tombent dans le péché. Jésus, dans le verset 18, dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé. Nous sommes sauvés. Par contre, attention, celui qui ne croit pas est déjà. » Ceci rejoint ce qui sera dit dans le verset 36. La colère de Dieu demeure. C'est l'idée qu'elle est déjà là. Et c'est ça que les gens autour de nous doivent comprendre. Ils sont en danger. Nous ne sommes plus en danger si nous avons cru en Jésus-Christ comme notre Sauveur. Mais les gens autour de nous, ils sont en danger. Ils sont déjà jugés. La colère de Dieu est déjà sur eux, même s'ils ne la ressentent pas complètement à chaque instant. Mais ils sont déjà condamnés. Et les gens autour de nous doivent comprendre cela. Et ils sont condamnés, non pas parce qu'ils font de mauvaises choses. C'est assez intéressant de remarquer dans ce verset. Jésus ne dit pas, ils sont déjà jugés parce qu'ils font de mauvaises choses, parce qu'ils agissent mal, parce qu'ils pêchent, parce... Non. Ils sont déjà jugés parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Les gens meurent et vont passer l'éternité loin de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur. Voilà pourquoi il nous faut annoncer le salut en Jésus-Christ. Et à partir de verset 19, Jean va revenir à ce contraste qu'il a fait au chapitre 1, entre la lumière et les ténèbres. Ce jugement, verset 19, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les gens autour de nous sont dans les ténèbres. Ténèbres spirituelles, on comprend bien. Ils sont dans les ténèbres et doivent venir à la lumière, mais ils ne veulent pas. Encore une fois, ne soyons pas frustrés avec les gens qui n'acceptent pas Christ comme leur Sauveur. On doit être attristé, mais non pas frustré. Ils ne peuvent pas d'eux-mêmes. Ils voient la lumière, mais ne veulent pas y aller. Et verset 20, « Quiconque fait le mal est la lumière, ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilé. Quand on nous dit qu'on a mal agi, ça ne fait pas plaisir. Ah, t'as fait telle ou telle chose. T'es coupable. Tu n'aurais pas dû ou tu aurais dû faire ceci alors que t'as fait cela. Ce n'est pas plaisant. Et on comprend que les gens qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas Christ comme leur Sauveur, ne veulent pas se sentir coupables. Ne veulent pas se remettre en question, ne veulent pas venir à la lumière que Dieu apporte. Et encore une fois, ne soyons pas frustrés, soyons attristés, parce que leur état est tellement triste. Mais ne soyons pas frustrés, manifestons cette compassion, cette patience et cet amour. Jésus, par Jean, explique ici qu'il y aura de l'opposition. Mais gloire à Dieu, le grand changement, verset 21. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Donc, la lumière que Dieu apporte par sa parole, par Jésus-Christ, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et voilà la fin de ce passage, mais vraiment le mot de conclusion. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Jésus est venu. Il est venu apporter la lumière, il est venu apporter la connaissance spirituelle, il est venu pour éclairer, il est venu pour agir, il est venu pour donner sa vie sur la croix, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous servir d'exemple. Et nous devons agir sur la base de son exemple, mais cela est impossible si nous écartons les derniers mots de ce verset 21. Ses œuvres sont faites en Dieu. Si cet après-midi, ou demain, ou cette semaine, je suis tout feu, tout flamme, oui, je vais agir pour Dieu, je vais faire ceci, je résolus que je vais. On est passé à côté. Par la grâce de Dieu, Dieu rend-moi capable de manifester l'amour envers ma famille qui m'agace par moments. Non, la famille n'agace jamais. Qu'est-ce que je dis là? Dieu, aide-moi à manifester de la patience envers mes collègues de travail qui me font du mal. C'est pas simplement qu'ils sont indifférents, mais ils me font du mal. Ils sont hostiles, s'opposent à moi. Dieu, aide-moi à surmonter la timidité, l'hésitation, le manque de témoignage dans ma vie. Je ne peux pas le faire moi-même. Mais je sais que c'est ce que tu attends de moi, alors rends-moi capable. Jésus savait très bien, parfaitement, pourquoi il était sur la terre. Parce que Jésus est en nous, nous devons avoir cette même certitude. Et tout comme il était manifeste que Dieu agissait à travers Jésus, nos œuvres, comme dit ce verset 21, doivent être manifestes. Et je vous pose la question, je me la pose également. Est-ce que mes œuvres pour Dieu sont manifestes? Est-ce qu'il est évident que les choix que je fais sont pour Dieu? Et que je mets Dieu à la place qui lui revient? Est-ce que je sais pourquoi je suis là? Ou est-ce que je me permets de minimiser ce que Jésus a fait pour moi? Est-ce que je minimise son influence dans ma vie? Est-ce que je m'appuie sur moi-même? Est-ce que j'essaie de me débattre moi-même? Nous voyons tout le contraire. Jésus a agi parfaitement. Et parce qu'il a fait, il peut nous rendre capables d'agir comme lui. Ne soyons pas étonnés s'il y a de l'incompréhension autour de nous. Il y aura de l'incompréhension. Que cela ne nous arrête pas. Que les gens comprennent, c'est très bien. Mais s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Avançons. Laissons Dieu manifester ses œuvres à travers nous. Et ainsi, lui, il sera glorifié. Et nous ferons sa volonté. Prenons ce choix aujourd'hui et demandons son aide pour cela. Prions. Oui, Seigneur, nous te louons pour Jésus-Christ, ce qu'il a accompli il y a 2000 ans et ce qu'il continue d'accomplir aujourd'hui. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui rend capable. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi. Nous demandons ton aide. Nous sommes faibles. Nous sommes incapables par nous-mêmes. Mais avec toi, Seigneur, nous pouvons tout faire. Tout ce que tu demandes de nous. Par toi, nous sommes puissants. Que tu puisses enlever tout obstacle qui nous empêcherait de nous soumettre à toi, de te faire confiance en toutes choses. Que ta puissance soit évidente dans notre vie, aujourd'hui, demain, toute cette semaine. Tu vois déjà les occasions qui seront devant nous pour manifester ta puissance. Et Seigneur, que cela soit évident autour de nous, dans notre famille, au travail, parmi nos amis, parmi nos connaissances, Seigneur, que tu continues de nous transformer par ta puissance, que tu nous aides à avoir plus d'amour, de compassion, de patience avec ceux qui nous entourent. Et Seigneur, que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui l'auras fait. C'est en ton nom que nous prions. Amen.